au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Bon jeudi à tous. Encore un menu fort intéressant aujourd'hui. On parlera au maire de la visitation de l'île du Pas sur les zones inondables. On a eu des nouvelles là-dessus aujourd'hui. On sait que dans son coin de pays, il y a beaucoup de résidences qui sont touchées. Sébastien Nadeau, le maire de l'Assomption, préfet de la MRC l'Assomption, viendra nous parler également. Martin Héroux, le maire. Donc, c'est une soirée remplie de maires pour la fête des pères. C'est pas pire, hein? Maire de Sainte-Émilie de l'Énergie. Et on terminera l'émission avec Tania de Villers, pharmacienne propriétaire de la bannière Jean Coutu à Saint-Gabriel, qui nous parlera des allergies. Et bien sûr, Jacques Plante viendra faire son commentaire en fin d'émission. Mesdames, messieurs, justement, bonne émission. Eh bien, pour les gens qui se posent la question de quoi on va parler avec Jacques Plante en fin d'émission, ben ce sera du troisième lien. Et on en a long à dire là-dessus, le troisième lien. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est encore une sorte de ballon électoral là, que se concocte le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Il y en a d'autres qui croient au projet. On en parlera de long et en large avec Jacques. On aura également des extraits de la ministre Guilbeault là, à vous présenter dans le cadre de cette entrevue. Mais pour l'instant, allons faire un tour du côté de...
Lanaudière PM, politique provinciale.
Le gouvernement du Québec qui a annoncé aujourd'hui l'adoption d'un cadre réglementaire modernisé qui entoure les zones inondables. J'en ai discuté avec le maire de la Visitation de l'île du Pas, Alain Goyette, qui, on vous le souligne, compte 70 % de ses contribuables situés justement en zone inondable. On parle au maire Alain Goyette, maire de la Visitation de l'île du Pas. Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui, M. Goyette, l'adoption du cadre réglementaire modernisé qui entoure les zones inondables. On s'en était déjà parlé auparavant, puis on s'était dit qu'on s'en reparlerait, et voilà. Alors, parlez-moi un peu là de comment ça vous impacte.
Bonjour. Comment ça nous impacte chez nous? On est dans une île dans le lac Saint-Pierre. Alors, effectivement, ce règlement-là permanent qui est annoncé pour l'entrée en vigueur au 1er mars 2026 et dont nous n'avons pas la copie actuellement, il sera juste publié le 25 juin de cette année. Donc, je me fie au sommaire qu'on a pour répondre à vos questions. La première des choses, c'est qu'on annonce un agrandissement de la zone inondable. Ça va se procéder par l'ajout d'une zone de récurrence 350 ans. Qui actuellement n'existe pas. Donc, il y aura effectivement un élargissement de la zone inondable et on va la considérer comme risque faible et on va permettre certaines activités à l'intérieur de cette zone-là. Il faut comprendre qu'actuellement, cette zone-là n'est pas réglementée. Les personnes peuvent faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire la même condition que les zones non inondables.
Zone 350, ça veut dire que ça arrive une fois à 350 ans que ça soit inondé, c'est ça?
Exactement. La probabilité d'inondation est d'une fois par 350 ans. Ça semble un peu ridicule, mais lorsqu'on inverse, c'est-à-dire la période est l'inverse de la fréquence, fait que si on fait 1 sur 350, le chiffre que ça donne, c'est la probabilité d'inondation à chaque année. Et par statistique, on peut continuer de même là sur bien, bien longtemps. Actuellement, la réglementation en vigueur intérimaire, il y a seulement une zone de 20 ans, 2 ans, 20 ans et 100 ans qui s'applique.
D'accord. Cet ajout-là, ça fait passer le nombre de logements en zone inondable de 25 000 à 35 000 résidences. Et en micro fermé, on parlait tantôt, vous me disiez que ça pourrait donc toucher à peu près 80 000 citoyens.
Oui. La moyenne canadienne étant de 2,5 habitants par logement, effectivement, on pourra dire que ça va toucher cette quantité-là de personnes de plus, là, 80 quelques mille citoyens.
Chez vous, à l'île du Pas, à la Visitation de l'île du Pas, là, c'est pas mal tout le monde qui est en zone inondable. Vous me corrigerez, là.
Ben, on pouvait dire autour de 70 % pourrait être impacté. Mais je dis pourrait parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai pas la réglementation. Et un des litiges principaux que nous avions, un des principaux litiges, c'est le niveau à partir duquel on considère la zone inondable, chez nous, il est surévalué de beaucoup. Et ça, c'est une bataille que j'ai pas la réponse aujourd'hui, qu'il va falloir lire les textes pour déterminer si le gouvernement, parce qu'en même temps que le règlement permanent sur les zones inondables, il y a aussi un règlement sur les règles pour établir les cartes et la cartographie qui rentrent en vigueur. Aujourd'hui, il faut comprendre, il n'y a aucune carte officielle émanant du gouvernement qui était faite. Ils vont les faire. Donc, les seuils avec lesquels ils vont déterminer les zones inondables est aussi important que la réglementation comme telle.
Est-ce que les assureurs vont tenir compte de ces cartes-là pour établir leurs règles?
C'est une très bonne question. Les assureurs ont leurs propres sources d'information et leur propre méthodologie pour déterminer les zones. Est-ce qu'ils vont se fier à la plus sévère des deux ou conserver les méthodes actuelles? Ça, je ne peux pas le dire, je le sais pas.
Parce que ça risque de faire mal au portefeuille de certains, là, dépendamment de comment c'est interprété par le monde de l'assurance.
Oui, puis ça crée un cercle vicieux. La difficulté d'assurer amène une difficulté au financement, puisque souvent le financement est conditionnel à l'assurance. Et là, ça tourne en rond. À un moment donné, les personnes ont de la difficulté à s'assurer, de la difficulté à se financer, et ça met le projet à risque.
Alain Goyette, maire de la Visitation de l'île du Port, je pense qu'on va se reparler d'ici quelques semaines concernant ce dossier.
Oui, effectivement.
C'est certain à 100% qu'on va se reparler. Écoutez, dans un instant, on parle au maire de l'Assomption. Restez là.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, Les Délices de Lourdes. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Marché Express Ultramar Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, L'Expert dépanneur, Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur la Clic CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Amateurs de pêche, le Festival de la truite mouchetée vous invite à venir taquiner le poisson et vous amuser au cœur du village de Saint-Alexis-des-Monts. Du 21 au 29 juin, gratuit pour tous et sans permis pour les résidents du Québec. Bingo, feu d'artifice, concours de bûcherons, pêche en famille, jeux gonflables et à ne pas manquer le spectacle de Ludovic Bourgeois le 21 juin, Justin Boulet le 27 juin, Francis de Grandprix le 28 juin, entre autres. Pour les enfants, un gala mini-star pour tous âges. Suivez-nous sur Facebook et Festival de la truite mouchetée.com. Saint-Alexis-des-Monts, le paradis du plein air et de la truite mouchetée.
C'est spectaculaire! Venez assister au circuit de motoneige sur l'eau du Québec ce samedi 14 juin dès 11h à Lavaltrie. Course en ovale, saut, drag, ski nautique derrière une motoneige. Vos yeux seront rivés sur le spectacle. De vrais motoneigistes se confrontent pour remporter la course, mais sur l'eau. C'est un rendez-vous ce samedi 14 juin dès 11h à Lavaltrie pour le circuit de motoneige sur l'eau du Québec. Information 819-357-2835, 819-357-2835.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Calixte, L'Assomption, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Légory.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, avec la musique, on se trompe pas.
La Naudière PM, politique municipale.
16h16, la MRC de l'Assomption doit revoir son modèle de développement. Il y a le maire de l'Assomption, qui est également préfet de la MRC de l'Assomption, Sébastien Nadeau, qui a fait part des défis qui se présentent à la tribune de la Chambre de commerce de la MRC, et notre collègue Régent Turgeon l'a rencontré au terme de son allocution.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption et préfet de la MRC de l'Assomption. Une chose qui m'a frappé d'entrée de jeu dans votre discours, c'est que la MRC est sous forte pression de développement, mais aussi dans un contexte d'accessibilité sociale. Ça veut dire quoi?
Ben, en fait, la MRC de l'Assomption est à maturité en termes de développement économique. Il n'y a plus de terrain disponible pour accueillir des entreprises. Alors, on est rendu à une étape de requalification des propriétés, requalification des terrains, et s'assurer que ce qu'on va autoriser comme projet sur notre territoire dans la MRC soit optimal en termes de retombées économiques, en termes de génération d'emplois, puis un positionnement stratégique à long terme pour que ces entreprises-là viennent servir la communauté.
Est-ce que c'est ce que vous avez dit dans votre discours, c'est qu'il faudra travailler dans les bons créneaux?
Dans les bons créneaux, effectivement. On veut protéger nos terres agricoles, on veut protéger les milieux humides. Donc, chaque terrain, chaque pied carré disponible doit être optimal. Et donc, on doit choisir les créneaux d'affaires dans lesquels on veut se développer. On n'a pas la liberté d'être de grands généralistes, alors on doit spécialiser. On pense à la zone Actec, on pense à Citec, on pense à différentes zones aussi d'entreprises qui génèrent beaucoup d'emplois dans peu d'espace, donc des espaces confortables où on peut bâtir le transport en commun. Alors, c'est le genre d'enjeux auxquels on doit faire face.
Et ce que vous avez également mentionné, c'est que, en parlant de développement économique de la MRC de l'Assomption, ça prend un soutien aux entreprises. Sinov a un rôle important à jouer.
Oui, tout à fait. Sinov est le bras économique de la MRC de l'Assomption. Sa mission, c'est justement de supporter des entreprises, peu importe dans quelle phase de développement ils sont rendus. Que l'on parle de start-up, que l'on parle d'entreprises à maturité, que l'on parle de transfert d'entreprise. Alors, on invite les entrepreneurs à contacter Sinov, même la SADC, la Chiant Montcalm, qui est aussi disponible pour supporter des entreprises. Et on a une foule de spécialistes, on a une foule de programmes, même financiers, pour les supporter. Alors, c'est la mission de Sinov.
Et là, la Chambre de commerce de la MRC ne peut pas rester sans rien faire non plus. Vous l'avez interpellé carrément, là.
Oui, effectivement, il y a des rencontres pour savoir de quelle façon on peut faire mieux, tout le monde ensemble. Vous savez, notre Chambre de commerce existe depuis de nombreuses décennies. On est rendu à une étape où on doit se réinventer, se remettre en question. Et la MRC d'Assomption a garanti l'appui dans cette démarche à notre Chambre de commerce pour supporter le dynamisme puis le renouveau au sein de notre Chambre de commerce.
Ce que j'ai trouvé personnellement comme étant la grosse nouvelle dans votre discours, M. Nadeau, c'est que la zone Actec soit officiellement reconnue comme un centre d'innovation au Québec. C'est vraiment le gros moteur du développement économique là, dans la MRC.
C'est ce qu'on peut croire, effectivement. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille sur le dossier de la zone Actec. Lorsque le gouvernement du Québec est venu nous officialiser notre positionnement de centre d'innovation pour l'ensemble du Québec, pour l'ensemble de l'économie, bien, c'est venu dire à l'ensemble de l'industrie, bien, maintenant, les grandes orientations, les grandes visions vont se définir dans la MRC de l'Assomption. Déjà récemment, on a accueilli 300 entreprises du Québec chez nous, dans notre MRC, qui viennent débattre, discuter de l'avenir. Alors, pour nous, ça, c'est très rassurant, très fondamental, et ça nous assure, un bel avenir dans le domaine.
Et le contexte dans lequel tout ce développement économique-là doit se faire, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, il y a un enjeu de densification.
Oui, c'est clair. Hein? On a le devoir d'accueillir toujours plus de résidents parce que les entreprises ont besoin de travailleurs. On pense à l'immigration, que l'on parle à la croissance naturelle de la population. Et il faut savoir aussi qu'auparavant, il y avait 2,8 résidents par porte. Maintenant, on est rendu à 1,8 résidents par porte. Alors, les citoyens sont de moins en moins nombreux dans chacune des propriétés. Alors, nécessairement, pour servir la même population, ça prend plus de densification. Alors, on doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes beaucoup plus importants à gérer comme communauté, comme société, que ce soit l'itinérance, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'assistance. Alors, c'est important de s'y investir de façon intelligente.
Au moment où on se parle, il y a des beaux projets dans la MRC. Je parle du côté de Charlemagne, notamment, avec les projets OUI à Perreault-Hervive, Lupfeny, un futur pôle industriel, Repentigny avec Avancia, Saint-Sulpice avec un nouvel hôtel de ville. L'Assomption n'est pas en reste. On veut en faire une destination touristique.
Bien, c'est-à-dire, je pense que l'Assomption est déjà une destination touristique. Les gens apprécient s'y retrouver. Maintenant, si on veut attirer de nouvelles clientèles, de nouveaux visiteurs, c'est important qu'on parle mieux de ce qu'on est, là où on est bon, qu'on ait une meilleure mise en marché de notre offre. Et c'est ce qu'on compte faire, oui, pour la ville de l'Assomption, mais aussi pour la MRC de l'Assomption.
Moi, j'ai l'impression, au final, que votre discours était un discours de mobilisation. C'est important d'unir les acteurs économiques derrière une vision, de faire progresser la MRC. Est-ce qu'on peut dire un pep talk?
Bien, j'ose le dire. Cependant, c'est pas la mission qu'on a. Je pense qu'on doit garder un œil réaliste, courageux, des défis qu'on a, mais qu'on doit aussi... Vous savez, quand notre voisin réussit, c'est toute la communauté qui gagne. Alors, nous, c'est à supportons le succès de nos entreprises une à la fois, puis ensemble, on va être plus riches, plus confortables comme communauté.
Lanaudière PM, tourisme.
Eh bien, Sainte-Émilie-de-l'Énergie est appelée à devenir une destination touristique digne de ce nom dans notre région. On vient de lui accorder l'appellation Village Relais, Village Relais, ça, ça permet d'accueillir les gens en ayant des équipements ou des commerces qui peuvent servir ou bien servir ces gens-là. C'est un maire, Martin Héroux, très heureux, à qui François Morin a parlé un peu plus tôt aujourd'hui.
Alors, M. Héroux, cette nouvelle appellation pour la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie, Village Relais, j'imagine qu'on accueille ça avec grand plaisir.
Ben en effet, c'est un accomplissement là pour nous. On avait cette vision là de se positionner étant le carrefour que l'on connaît, et puis c'était comme un peu magique parce que c'est le réseau, la fédération qui nous ont contactés pour devenir le 49e village relais. Ça fait de ça à peu près un peu plus d'un an là qu'on a entamé les démarches pour l'analyse de la candidature de Sainte-Émilie, mais on y pensait, puis ils nous ont contactés. Fait qu'on se dit bon, ben les astres sont alignés, ça va bien aller, on va devenir village relais. Et puis ben en effet, ça a très bien été. Notre candidature était fort appréciée, puis c'est ça, c'est un positionnement pour le long de la 131, la route 131, on est le premier village relais là, sur cette route-là, donc on est bien heureux.
Évidemment, faut expliquer aussi aux gens qui nous écoutent qu'on a quand même dû respecter certains critères qui sont établis là, par la fédération.
Oui, en fait, il y a des critères d'analyse là, justement des candidatures qui sont déposées là, à la fédération. Et puis, il faut avoir, des services à offrir aux voyageurs qui sont de passage, ne serait-ce que les toilettes accessibles 24 heures, excusez-moi, je bafouille, des services de station de service, de restauration, d'accueil des touristes et tout ça. Donc, c'est pas... ne devient pas village relais qui veut, là, dans le fond. Donc, on est bien content là, d'avoir réussi à combler là, les exigences du réseau.
Est-ce qu'éventuellement, on pourrait peaufiner ou, je dirais, améliorer ce qu'on a déjà pour faire en sorte que ça, on puisse attirer davantage de gens qui ne feront pas juste s'arrêter là, une couple d'heures, mais qui vont pouvoir rester?
Ben c'est déjà fait en fait la semaine prochaine lundi le 11 on inaugurait l'annonce qu'on devenait le 49e village relais et lundi prochain le 16 on inaugure le parc nature émilinois qui est vraiment au cœur du village avec autour du site de la plage municipale on a un bâtiment d'accueil, les gens peuvent s'arrêter, il y a de la location de yourtes. Puis on a réseauté ça avec le sentier national également. Donc, il y a des parois d'escalade accessibles à pied du cœur du village. Donc, on offre un bon prétexte aux voyageurs, en plus du village relais, de pouvoir s'arrêter puis de passer un moment là dans nos installations. Donc, on est très fiers de ça aussi.
Dans cette même veine, puisqu'on risque d'en parler beaucoup du fait que le Sainte-Émilie-d'Énergie devient village relais, il y a peut-être des promoteurs qui vont cogner à la porte, qui vont être intéressés justement à mettre en place divers projets ou diverses infrastructures pour attirer davantage de gens.
Ben, on le souhaite. C'est déjà en branche, je dirais, des choses qu'on peut pas annoncer encore là, mais il y a des discussions qui ont lieu en lien avec des projets là, d'hébergement touristique, tout ça, qui sont d'importante envergure là, pour notre communauté. Et puis, c'est de créer, je cherche mes mots, mais en bon français, un spin autour de ça à Sainte-Émilie. Ça faisait partie de la vision du conseil de développer stratégiquement le fait qu'on soit un carrefour, mais un carrefour des possibilités en plein air également. Donc, avec le club de montagne et de l'escalade de la Naudière, il y a une paroi école. On a instauré là, des partenariats avec le parc nature. La location de kayaks sur la rivière Noire, il y a des partenariats avec des entreprises aussi qui sont déjà là, mais qui se mettent en place là de façon plus officielle pour dynamiser là, l'offre récréotouristique autour du noyau villageois et du parc nature de la plage municipale. Donc c'est déjà là, c'était l'objectif, puis je pense que l'objectif est atteint. Maintenant, il faut dynamiser tout ça, là, le faire grandir encore davantage.
Donc, je comprends bien qu'on se positionne véritablement là au sein de l'industrie récréotouristique lanaudoise.
Ben oui, je pense, et avec fierté, là, on devient vraiment une plaque tournante du plein air en Matawini et dans Lanaudière, parce que la Matawini, c'est le magnifique terrain de jeu des Lanaudois et des régions avoisinantes. Là, la Couronne-Nord de Montréal viennent beaucoup dans nos territoires, donc on se démarque par cette offre-là qui est très familiale. Ça, on a justement des parois d'escalade de niveau débutant, de niveau école, donc ce qui amène aussi les familles à venir participer, à pratiquer cette activité-là qui est de plus en plus populaire. La rivière Noire aussi, qui est une belle rivière, quand même assez sécuritaire là, pour faire l'apprentissage du kayak, tout ça. Donc, on a un beau territoire pour de l'initiation aux familles là, pour ces activités de plein air-là. La randonnée pédestre, les sentiers du lac Kael, des refuges le long du sentier national, tout ça qui sont en train d'être implantés. Donc, une belle diversité là, pour le plein air accessible aux familles.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Tiens, on va commencer par la 25 Nord pour le pont de l'Île-Saint-Jean. Vous allez commencer à ralentir sérieusement sur le pont payant de la 25 et sérieusement également à la jonction 25-440. Pont Sophie-Masson, c'est au ralenti encore une fois. 6-40 dans les deux directions, c'est assez congestionné, surtout en direction ouest. Direction est, ça va relativement bien jusqu'à la jonction 46-40. Pour ce qui est de la 40 métropolitaine est pour le pont Charles de Gaulle, eh bien, ça circule bien, lentement, mais bien. Vous traversez le pont, là, sans trop de problèmes. C'est ce que je regarde actuellement. Alors, ça va très bien, même. Même chose du côté du pont Le Gardeur, par la rue Sherbrooke ou Notre-Dame. Ça circule bien. Alors voilà, c'est tant mieux, un bon jeudi, tranquille.
Membre un jour, membre toujours. Devenez membre à vie de la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, née de la fusion des coopératives funéraires de Saint-Jean-de-Mata et de Montcalm. 20 $ payables une seule fois. 450-886-3763 et 450-839-3450.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice. Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec, alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Maître Morin, mes hommages.
Bonne fin d'après-midi, Monsieur Arnois.
Aïe, c'est le décorum cet après-midi. L'application du nouveau régime forestier, ben c'est pas pour demain.
Oui, en fait, l'application de la réforme du régime forestier que compte instaurer le gouvernement du Québec risque d'être un peu fastidieuse. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la ministre Maïté Blanchette-Vézina fait marche arrière afin de tenir davantage compte des revendications autochtones. D'ailleurs, il y a le président de la Série Saint-Michel, Jean-François Champoux, qui nous parle de la multiplicité des interlocuteurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts.
On a M. Sipi Flamand, qui est le chef de la communauté de Manouane, puis on a aussi, en parallèle à ça, une douzaine de chefs de territoire qui sont les représentants des familles de chacune des territoires partout dans la Naudière. Mais ces gens-là, ils veulent se faire entendre. Ils ont le droit de se faire entendre, sauf que au final, il faut travailler tout ensemble à avoir l'objectif que les opérations forestières sont présentes sur le territoire. Elles sont importantes. C'est une part importante du développement des régions du Québec.
peu comme à Repentigny, la MRC L'Assomption est freinée dans son développement.
Et elle fait face d'ailleurs à d'importants défis économiques qui la mettent sous pression. Il y a des enjeux que le préfet et maire de L'Assomption, Sébastien Nadeau, a exposés devant les membres de la Chambre de commerce de la MRC. Et le maire Nadeau nous parle de requalification de certaines zones.
La MRC de l'Assomption est à maturité en termes de développement économique. Il n'y a plus de terrain disponible pour accueillir des entreprises. Alors, on est rendu à une étape de requalification des propriétés, requalification des terrains et s'assurer que ce qu'on va autoriser comme projet sur notre territoire dans la MRC soit optimal en termes de retombées économiques, en termes de génération d'emplois, puis un positionnement stratégique à long terme pour que ces entreprises-là viennent servir la communauté.
Un village maintenant où s'arrêter, Sainte-Émilie de l'Énergie est maintenant village relais.
Il aurait fallu quand même un an à la municipalité de Sainte-Émilie de l'Énergie afin de peaufiner sa candidature pour recevoir l'appellation de village relais. C'est la Fédération des villages relais du Québec qui a d'ailleurs fait les premières approches et du côté municipal, on a de toute évidence su répondre aux critères et le maire Martin Héroux affirme que l'offre de services aux visiteurs sera sans doute accrue.
Il y a des choses qu'on peut pas annoncer encore, là, mais il y a des discussions qui ont lieu en lien avec des projets là, d'hébergement touristique, tout ça, qui sont d'importante envergure là, pour notre communauté. C'est de créer, en bon français, un spin autour de ça à Sainte-Émilie. Ça faisait partie de la vision du conseil de développer stratégiquement le fait qu'on soit un carrefour, mais un carrefour des possibilités en plein air également.
Bonne nouvelle, du côté de Notre-Dame-des-Prairies, un important investissement municipal.
On peut même dire que dans le contexte budgétaire actuel, c'est surprenant. Québec qui délie les cordons de la bourse et accorde 4,1 millions à la ville de Notre-Dame-des-Prairies pour la rénovation et l'agrandissement du garage municipal. Construit en 1972, le bâtiment sera agrandi sur deux niveaux, donc la superficie de plancher ainsi ajoutée sera d'environ de 690 mètres carrés. Le projet, dont la construction a commencé, permettra entre autres l'aménagement d'aires de travail supplémentaires, de bureaux, de vestiaires, de pièces utilitaires, de même qu'une salle de pause et une autre de réunion. D'autres travaux visent la mise aux normes des systèmes de plomberie, de ventilation, d'électricité et de protection contre l'incendie. Et en outre, le terrassement et l'aménagement paysager du site, incluant la gestion des eaux pluviales, le raccordement au réseau d'aqueduc et d'égout, ainsi que la réfection du stationnement, sont prévus.
La fonction publique fédérale devra bien se tenir avec l'arrivée prochaine de Michael Sabia au bureau de Mark Carney.
Ouais, la nomination du patron jusqu'à hier d'Hydro-Québec, Michael Sabia, au titre de directeur ou secrétaire plutôt du conseil privé à Ottawa, fait de lui celui qui aura à s'assurer que les orientations gouvernementales fassent leur chemin auprès des différents ministères. Et selon notre analyste Mathieu Bélanger, le premier ministre Mark Carney passe un message clair à la fonction publique qui, comme on le sait, a été pointé du doigt au cours des dernières années pour son inefficacité dans certains dossiers malgré sa croissance en termes d'effectifs.
Michael Sabia a la réputation d'être quelqu'un qui veut des résultats, qui veut que ça bouge, qui cherche de l'efficacité. C'est quelqu'un qui connaît bien le secteur public, le secteur parapublic, le secteur privé de ses expériences passées. Donc, c'est quelqu'un qui a manifestement des compétences pour ce genre de poste-là. C'est ce qui cadre justement avec la vision que Mark Carney présente depuis qu'il est rendu premier ministre. Il veut que les choses bougent, que les choses bougent vite.
Voilà, ça complète Michel. D'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM. Santé.
Il est 16h36 minutes. Un Canadien sur quatre, tenez-vous bien, souffre d'allergies saisonnières qui, selon les experts, ils sont maintenant plus fortes et ça dure plus longtemps. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'il y a un réchauffement climatique puis ça fait plus pousser les mauvaises herbes. Que voulez-vous? C'est comme ça. J'ai eu l'occasion d'en jaser cet après-midi avec Tania Levillière, qui est pharmacienne et copropriétaire de la bannière Jean Coutu à Saint-Gabriel. Vous allez voir, c'est intéressant. La saison des allergies est pour l'instant relativement normale au pays. Cependant, on s'attend à des allergies qui deviennent de plus en plus longues et plus intenses. Et ça s'explique parce que, écoutez, au cours des 25 dernières années, la quantité de pollen a presque doublé, passant de 500 000 grains par année en 1998 à peu près 1 million en 2023. Donc, c'est le double de pollen qu'il y a dans l'air. J'ai avec moi Tania Levillière, elle est propriétaire et pharmacienne du côté de la bannière Jean Coutu à Saint-Gabriel-de-Brandon. Madame de Villers, avez-vous observé une recrudescence de gens qui viennent pour régler leurs problèmes d'allergie?
Effectivement, on aperçoit une tendance à la hausse des gens qui sont allergiques et qui démontrent des symptômes plus importants, mais aussi plus tôt dans l'année. Donc, on voit la tendance qui commence de plus en plus tôt à chaque année. On observe les gens qui utilisent des antihistaminiques plus tôt dans la saison que les années auparavant.
À cause des changements climatiques et des chaleurs qui augmentent, on constate donc que la période de pollinisation augmente. Les mauvaises herbes, ben, ils ont tendance à pousser davantage, vous savez ce que c'est. Ça influence aussi la quantité de pollen dans l'air. Il n'y a pas 56 000 solutions pour régler le problème. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens, vous, de votre côté?
En fait, les symptômes tels que la rhinite allergique, la conjonctivite allergique, peuvent être soulagés premièrement par des antihistaminiques de façon orale, mais aussi par des vaporisateurs nasaux à base de corticostéroïdes qu'on peut maintenant prescrire directement à la pharmacie.
C'est ça, les gens n'ont pas besoin d'aller voir le médecin, là. Souvent, ils peuvent demander conseil auprès de vous, là.
Exactement. Ça vaut la peine de venir rencontrer le pharmacien. On peut faire une consultation et puis souvent même les produits qui sont sur les tablettes ou les vaporisateurs nasaux ou les gouttes oculaires peuvent être prescrites et même couvertes par votre assurance.
Il y en a pour qui là, c'est vraiment douloureux là, cette période-là.
Effectivement, c'est des symptômes souvent qui vont affecter la qualité de vie des personnes atteintes, autant concernant le sommeil que durant la journée, là, l'efficacité au travail, par exemple. Donc, c'est important là, de consulter dès les premiers symptômes, sachant que ça prend quelques jours aussi avant de voir une amélioration totale des symptômes.
Selon le docteur Denis Choret, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Montfort à Ottawa, on est rendu à 20-25% de la population canadienne. C'est énorme!
Exact. Effectivement, de plus en plus de personnes développent des symptômes d'allergie et même des gens qui n'avaient pas de symptômes d'allergie auparavant, maintenant, vont présenter des symptômes.
Vous devancez mes propos. On s'est aperçu que certains adultes âgés de 40 ans et plus ont commencé à développer des allergies qu'ils n'avaient jamais eues, ils n'avaient jamais souffert. Et on sait que les allergies, habituellement, ça se développe durant l'enfance, mais c'est la concentration de pollen qui est le problème.
Exact. On voit vraiment des réactions assez importantes par rapport à la quantité de pollen. Et puis, les symptômes, en plus, vont être plus propagés, disons. Là. Donc, on se limite pas seulement à la rhinorrhée ou ça va être des symptômes au niveau de la gorge, picotement au niveau de la gorge, au niveau des yeux, sensation de picotement au niveau des yeux. Donc, les symptômes sont plus larges aussi.
Vous, comme professionnel, qu'est-ce que vous pensez de la luminothérapie et des vaccins d'allergie pour ceux qui souffrent là, d'allergies?
En fait, quand c'est des allergies sévères, donc on considère à haute sévérité, c'est là que les traitements vont entrer en ligne de compte. Il y a certains médicaments spécialisés aussi pour ça. Mais habituellement, les allergies saisonnières, sans être sévères, vont être soulagées avec nos médicaments qu'on a à la pharmacie directement.
En terminant, il y a des spécialistes qui recommandent d'installer des purificateurs d'air et des climatiseurs. Qu'en dites-vous?
Effectivement, c'est sûr que ça peut aider. On laisse les fenêtres fermées le plus possible. Ça, c'est le premier conseil qu'on va donner à nos patients. Il faut laisser les fenêtres fermées pour diminuer la quantité de pollen qui entre dans la maison. Éviter aussi là, de faire sécher le linge à l'extérieur pendant la saison des pollen. C'est des mesures non pharmacologiques, mais qui sont importantes.
Bien, écoutez, Tania de Villers, pharmacienne propriétaire du Jean Coutu à Ville-Saint-Gabriel, merci beaucoup de vos conseils.
Merci à vous. Une bonne journée.
Il est 16h41. De l'autre côté de la pause, l'impayable Jacques Parente.
C'est l'heure du 4 à 7 sur la terrasse de la Cage du Lac à Saint-Gabriel. Du mercredi au vendredi de 16h à 18h, venez relaxer avec notre ambiance unique et nos spéciaux 2 pour 1 sur une sélection de boissons. Et les fins de semaine ensoleillées, ne manquez pas notre grande nouveauté, le barbecue sur le toit préparé par notre chef. Une façon festive de profiter de l'été. Avec la vue sur le lac Masquinongé et les arômes du grill, vous serez conquis. Terrasse, bonne bouffe, bonne compagnie, tout y est.
Réservez votre table au 450-271-8217 ou en ligne à cachedulac.com.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec, alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Un spectacle qui raconte, qui ressent, qui vibre. D'aventure en aventure, c'est Serge Lama, vu sous un nouvel éclairage, à travers ses plus grandes chansons et des histoires qui prennent vie sur scène. Un hommage vibrant, en primeur, au Centre culturel Desjardins, dès le 10 juillet. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com. Une présentation de Patrick Morin.
Ici Tania de Villers et Catherine Barry, vos pharmaciennes propriétaires à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon. La saison estivale approche, il est important de s'informer sur les piqûres de moustiques et les piqûres de tiques. Vous pouvez compter sur nous pour bien vous conseiller sur les différents insectifuges disponibles et adaptés à vos besoins. Nous pouvons également évaluer une piqûre et vous conseiller sur les traitements anti-démangeaisons ou un traitement préventif contre la maladie de Lyme si besoin.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou passez-nous voir à la pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
99.1-88.9 CFNJ. À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Ça va aider. Bon, c'est toujours vrai. Agréable de vous parler, Jacques Plante.
On se parle en dehors des ondes, on doit ouvrir le micro.
Vous savez, on en oublie nos pitons, comme dirait l'autre.
C'est parce que il faut le mentionner aux gens, Michel, quand tu dis l'impayable ou l'intraitable, c'est que en coulisses, évidemment, avant d'aller en ondes, on niaise un peu. Pour aujourd'hui, c'est une journée de niaiser avec le troisième lien. Là.
Oui, et puis c'est la journée de la paye en plus.
C'est la dernière de la semaine.
Oui,
pour
le
moi.
Sujet, c'est le troisième lien. Ouais. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, Jacques. Gouvernement qui a fait l'annonce expliquant que leur choix, parce que finalement, là, ça ne sera pas à l'est ni à l'ouest, ça va être dans le milieu.
Oui, c'est ça. Il y avait comme cinq possibilités. Et là, celle qu'on a choisie, j'entendais avant de m'en venir à la station tantôt un commentaire du maire de Québec. Lui, il ne serait pas allé vers celle-là parce que ça donne des travaux supplémentaires à faire et ça va augmenter la facture. Mais je disais niaiseux. C'est que ça devient une folie furieuse. J'écoutais ça, là, notre belle ministre Guilbeault, et c'est une pâle parodie du film avec Bill Murray, Le jour de la marmotte. Là.
Oui, ça recommence.
Ça recommence constamment, sauf qu'à toutes les fois, la mouture
est différente, oui, c'est ça.
T'sais, là, on est rendu avec un pont qui va nous amener à traverser le fleuve. Et quand tu arrives sur la rive à Québec, là, ça se transforme en tunnel.
Pour traverser le roc.
Magie.
Bon, est-ce qu'on écoute le ministre Geneviève Guilbeault là-dessus?
Ben oui.
Alors, je suis censé l'avoir en quelque part.
Elle est poignée dans le trafic.
Oui, ça a l'air. Alors, je ne l'ai pas. Alors, malheureusement, on va continuer à parler, mon
cher. On s'excuse, mesdames, messieurs, mais là, elle dit non, c'est Plante qui passe en ongles. Je suis trop gêné d'aller parler, d'aller raconter les affaires.
Tant que M. Trump veut souligner...
Ah, c'est pas ça du tout.
C'est
notre collègue de Radio-Canada, Patrice Roy, qui intervenait.
C'est pas bon.
Alors, c'était pas ça.
Mais c'est ça. Là, on parle d'un pont pour traverser le fleuve et après ça, ça devient un tunnel. Et si tu te souviens, à toutes les fois qu'ils ont fait une annonce, au début, on parlait d'un immense tunnel. Là. Il y avait comme deux paliers. Après ça, on a dit non, on va y aller juste pour le transport en commun. Après, on a dit non, ça ne marchera pas. On va faire un pont direction de l'île d'Orléans. Après, on a dit non, oui, ça va défaire le paysage un peu. C'est tellement beau ce coin-là, là, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller. Et on a dit non, on fait pas ça. À un moment donné, si je me souviens bien, parce qu'on s'y perd hein, dans le pont, là, on dit non, on oublie le projet, on fait plus ça. Là, on revient tout d'un coup avec ça. Et c'était bien mentionné dans le point de presse de la ministre. Elle peut pas le chiffrer.
Pas pour l'instant.
Il n'y a pas de budget pour l'instant. Et c'est plate là, ce que je vais dire, mais avancez-vous pas, c'est le plus sage des conseils que je pourrais leur donner, d'en donner des chiffres, parce que là, on est en train d'écouter le téléroman Satellite, Puis à chaque jour, tchic-tchic, la carte de crédit passe. Hein? Les montants augmentent, ça n'a pas d'allure.
Moi, Jacques, j'ai passé un séjour à Québec il y a quelques mois. Et j'étais installé dans un hôtel qui donnait la vue sur la sortie du pont Pierre-Laporte, là-bas.
Oui, oui.
Qui était en travaux, incidemment.
Oui.
Et il était, un vendredi soir, de congestion. Et honnêtement, là, j'ai surveillé le jeudi soir à l'heure de pointe et le vendredi matin à l'heure de pointe. Et j'étais sur le balcon, je voyais très bien ce qui se passait. Et j'ai calculé 10, 12, maximum 15 minutes de congestion. Et je me posais la réflexion, peut-être que je suis complètement... Hors de mes pompes, mais je me disais, ces gens-là connaissent pas c'est quoi la grosse congestion, parce qu'à Montréal, là, moi, j'ai sous les yeux tous les jours, là, la carte interactive du ministère des Transports, et la congestion, là, ça dure 45 minutes, une heure 15, des fois plus, des fois moins, mais quand même, je trouve que il n'y a pas tant de congestion de ça, ce pont-là, mais apparemment que je vise pas la bonne chose. J'ai peut-être pas la bonne analyse.
Oui, mais remarque que moi, je vais à Québec de façon assez régulière. Il y en a de la congestion. J'ai pas à traverser le pont pour aller sur la rive sud, cependant. Je reste sur la rive nord. Mais ce que j'ai remarqué, à un moment donné, on nous signalait un accident sur le pont. Et les services d'urgence, policiers, pompiers, remorqueuses, ont agi assez rapidement parce que le bouchon s'est dilué assez vite. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation à faire avec ça quand on intervient du côté de Montréal? Je ne sais pas.
Ce que la ministre Guilmeault mentionnait également, c'est que ça n'avait pas à voir avec nécessairement la densité des automobiles, mais plus pour favoriser le transit des camions.
Oui, mais ça, là, quand c'est le vieux pont de Québec là, qu'on appelle le pont en fer, là, hein?
Oui, oui, le vieux pont. Le pont de Québec, oui.
Le vieux pont de Québec.
Parce on l'appelle le pont de Québec.
Le pont de Québec, parce que l'autre, c'est
Laporte. Parce que l'autre, c'est Pierre-Laporte.
Exactement. Et c'est le CNCP qui était propriétaire. Il a été remis au gouvernement du Canada.
C'est le CNCP qui était propriétaire, qui également était propriétaire. Il y avait Bill Gates dans le portrait.
Ah oui?
Oui, ça appartenait à Bill Gates, le pont.
Ça a été vendu au fédéral.
Bon.
Et là, il y a eu une étude
Il n'y a pas le maire de Québec qui voulait l'acheter, le pont.
Ah, ça, je ne me souviens pas. Il aurait pu le vendre en ferraille, il aurait été payant.
Oui, oui, avec le fer.
Mais je me souviens qu'on a dit, parce que ce que Guilbeault a évoqué là, pour le transport routier, il y a quelqu'un qui avait dit, le tablier n'est pas si abîmé que ça. Il y avait peut-être une question de le renforcer ou de le travailler un peu. Et effectivement, on pourrait peut-être, je vous dirais pas de faire passer toute la flotte des camions, mais ça pourrait nous dépanner. Mais je trouve qu'elle a quand même employé dans ce point de presse-là un phénomène catastrophique. Là. S'il arrivait quelque chose de gros sur le pont de la porte, on peut plus passer. À un moment donné, là, faut
oui, pas... c'est avec des scies, on va à Paris, hein, c'est ça l'expression. Oui,
exactement.
Parce si on fait des ponts avec bon, un coût qui n'est pas déterminé, mais qu'on imagine quand même très élevé.
Mais la dernière facture...
Avec
là,
des suppositions.
La dernière facture, quand on parlait d'un pont là, de mémoire, on n'était pas loin de 10 milliards.
Mais ça, c'est tous les Québécois qui payent ça. Là. C'est pas juste les gens de Québec.
Non. Puisque tu parles des gens de Québec, selon un sondage qui a eu lieu, puis c'est pas un sondage récent, là, mais un sondage qui était fait, qui c'était pas un sondage politique, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient d'un troisième lien, et il y a 70 % qui sont en faveur. Alors, lorsqu'on a vu...
70 % des gens de Québec.
Des gens de Québec, ouais. Oui, effectivement. Et là, ce qu'on a vu, c'est que à 70 % c'est aussi des voteux. Et les voteux actuellement, oui, et actuellement les voteux ont une tendance au Parti québécois, c'est lui qui mène.
Il est important de ne pas remplacer le V par un P.
Non, non. ou un R. Oui. Ça serait pas gentil.
Oui, c'est ça. Hein? On est parti.
Oui, non, oui, c'est ça. Ramenez-nous à l'heure, monsieur le technicien. Oui. Il nous envoie des électrochocs dans nos écouteurs pour nous replacer. Mais c'est ça. Là, c'est carrément politique parce que même la ministre, écoute, est allée dire. On va engager, même si on n'est pas réélu, le prochain gouvernement. Moi, je termine, Michel, en disant ceci. Je les amène pour mettre ça touristique. On devrait embarquer sur un traversier qui nous amène au pont, au tunnel. De l'autre côté, un stationnement, le tramway et pourquoi pas des calèches.
Ah oui.
Hein, ça serait bon pour
d'accord.
Le...
D'accord.
Oui.
Absolument. Hein, alors, voilà. Merci, Jacques Plante.
Tant qu'à faire. Salut.
Un merci également à Alain Goyette, maire de la Visitation de l'île du Port. Sébastien Ladeau, préfet de l'Assomption, oui, et maire de l'Assomption qui est venu nous parler. Le maire de Sainte-Émilie d'Énergie, sa municipalité est maintenant reconnue. Martin Héroux, merci. Tania Levillaire, la pharmacienne propriétaire du Jean Coutu de Saint-Gabriel et évidemment Jacques Plante. Merci à Nicolas Bellemare. Merci à François Morin et à Régent Turgeon. Ici Michel Arnoy, je donne rendez-vous lundi parce que demain, c'est congé. Bye bye tout le monde.